Rameau, Balbâtre, une histoire dijonnaise, c'est le titre générique pour deux jours de musique ce week-end à Dijon. À l'initiative de ce week-end, le Songe du Roi, votre ensemble baroque à géométrie variable, Patrick Hellmann.
Effectivement, la nouvelle saison de musique au Cordeliers qui a lieu donc rue Turgot dans cette très belle salle des Cordeliers a décidé depuis cette année de s'élargir un petit peu et d'ouvrir ses portes à l'histoire, aux conférences, à ce qui est autour de la musique, parce que depuis 5 ans nous faisons des concerts très régulièrement et ça se limite aux concerts avec quelques présentations de ma part parce que je présente les œuvres en général. Et là, nous avons invité des conférenciers à quelques concerts de la saison. Et pour celui-ci, nous avons invité donc Pierre Dubois, spécialiste de Balbâtre, qui a sorti cette biographie de Balbâtre en 2022. Et c'est la bonne année en 24, puisque c'est le tricentenaire de sa naissance, pour en parler et notamment pour jouer sa musique avec le Songe du Roi.
Patrick a un programme qui commencera par une conférence et puis ensuite, évidemment, place à la musique, alors sous diverses formes. Masterclass ou concert.
Balbâtre est prétexte pour parler aussi d'autres compositeurs dijonnais, notamment Rameau, mais pas que. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Baptiste Capu, C-A-P-U-S.
Une musicienne dijonnaise a sorti un disque il y a quelques temps.
Il est né à Dijon et mort à Dijon. Il a fait toute sa carrière à Dijon et il nous a laissé un livre de viol de gambe avec la basse continue. Et nous jouerons une pièce avec Noémie Lenouf lors de ce concert. Donc c'est vraiment un concert très dijonnais. Et pour clore le programme, il y a Mozart aussi, qui est passé en 1766 à Dijon. Et cette année, 66, il a édité plusieurs sonates pour violon et clavecin obligé. C'est-à-dire le clavecin est écrit, c'est pas de la basse continue. Et je pense qu'il a joué ses sonates, notamment à Dijon, lors de son passage.
Et on terminera le week-end avec l'orgue, ce sera à Saint-Bénil avec Frédéric Maillard qui sera avec nous aussi dans un instant. Premier rendez-vous de ce week-end particulier avec une conférence. Ce sera à 10h30 dans l'ancien couvent des Cordeliers à Dijon, rue Turgot. Avec vous, Pierre Dubois, vous avez publié il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, Balbâtre, un virtuose au siècle des Lumières. C'est chez l'Harmattan, on peut toujours le trouver ce livre. C'est-à-dire que vous connaissez bien la biographie de notre homme que l'on n'appelle surtout pas Claude Bénigne.
Non, c'est bien son prénom, Claude, tout simplement, et non pas Claude Bénigne comme certains écrivent.
Musicien comme papa, et alors le papa s'appelait vraiment Bénigne.
Il a été organiste à Dijon et son fils a suivi sur ses traces.
Vous qui n'êtes pas musicien de profession, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce musicien ?
Eh bien écoutez, plusieurs raisons. La première, c'est un paradoxe. C'est le fait que Claude Balbâtre est assez souvent ignoré ou dénigré ou regardé avec un peu de condescendance de nos jours, mais qu'au XVIIIe siècle, il était considéré comme un très grand virtuose, adulé de l'aristocratie comme du peuple, et loué dans tous les comptes rendus de l'époque que l'on peut trouver. Donc, comment se fait-il qu'un musicien si populaire à son époque soit tombé dans l'oubli aujourd'hui? Et ça m'amène à une deuxième réflexion, c'est que peut-être pour comprendre certains compositeurs, il faut les placer dans leur contexte, dans le contexte social et esthétique de leur temps. Et puis, troisième raison, c'est que je suis organiste amateur. J'ai eu la chance d'être de nombreuses années organiste à Souvigny sur un très bel orgue de Cliquot. Et quand on joue la musique de Balbâtre, la musique d'orgue qu'il a écrite sur un instrument de ce type de facture, eh bien tout devient évident et prend sens. Donc, il me semble que on a intérêt à se retourner vers ce compositeur d'autrefois et puis essayer de découvrir l'intérêt de son œuvre.
votre époque retient surtout les Noëls.
Oui, parce que d'abord ils sont charmants. C'est une grande tradition de la musique du XVIIIe siècle à l'église. Et Balbâtre a eu un succès énorme avec ses Noëls, au point même que l'évêque de Paris avait fini par lui interdire de jouer à la messe de minuit parce qu'il y avait trop de remue-ménage dans l'église quand il jouait. Les foules se pressaient pour l'écouter. Mais ça n'est qu'un aspect de sa production. Ce qui est intéressant dans les Noëls de Balbâtre, c'est que ceux qu'il a publiés étaient destinés au clavecin ou au pianoforte, non pas à l'orgue. Alors que lui, bien sûr, les jouait à l'orgue, à la messe, si vous voulez. Mais il était aussi intéressé par le fait de tourner cette musique vers la sphère privée, la sphère de la musique de chambre.
On n'associe pas toujours son nom à ceci, et pourtant... C'est Olivier Latric qui est à l'orgue. On peut continuer avec cet exemple-là. Balbâtre est né à Dijon, c'était en 1724. Il a connu quasiment la période baroque jusqu'à la Révolution incluse.
Oui, puisqu'il est mort très tardivement, en 1799, donc il traverse tout le XVIIIe siècle finalement. Il est contemporain successivement de Händel, plus tard de Mozart, si vous voulez. Donc il couvre toute une longue période et s'adapte aux différents styles pendant toute cette période. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que du coup, il joue plusieurs instruments. Il commence au clavecin, et il passe à l'orgue, et puis il passe au pianoforte ensuite, et enfin il contribue à la création d'un instrument extraordinaire qui s'appelle le pianoforte organisé, c'est-à-dire le mélange d'un pianoforte et de jeux d'orgue. Et donc cette évolution dans le temps s'accompagne d'une évolution organologique, si vous voulez.
Alors, il y a un autre nom de musicien qu'on aime beaucoup à Dijon, c'est Rameau. Même s'il n'y est pas resté très longtemps, il va côtoyer Rameau de près.
Oui, il est l'un des disciples de Rameau. C'est Rameau qui l'accueille à Paris quand Balbâtre monte à Paris, où il va avoir des fonctions prestigieuses. Et Rameau lui confie même la transcription de l'ouverture de Pygmalion pour le clavier que Balbâtre effectue et qu'il joue à la cour avec succès et qu'il jouera ensuite au concert spirituel de nombreuses fois avec succès. Le concert spirituel est une institution très importante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à Paris, au moment de la relâche de l'opéra. On y donnait des concerts avec des chœurs, des concertos, de la musique d'orgue. Et Balbâtre a été titulaire de l'orgue construit par Miko, et expressément pour le Palais des Tuileries, pour le concert spirituel.
Est-ce qu'on peut dire de Balbâtre qu'il est un musicien des Lumières? C'est la grande époque, c'est le siècle des Lumières, comme on le dit souvent.
Oui, je crois tout à fait, d'abord chronologiquement, comme vous voulez de le rappeler, parce que c'est dans cette époque-là qu'il existe et qu'il compose et qu'il joue, mais aussi dans son esprit, c'est-à-dire cet esprit d'ouverture, cette recherche d'un hédonisme, d'une sensualité dans la musique, de quelque chose d'assez lumineux et joyeux, et aussi cette façon de se tourner vers des horizons nouveaux en permanence.
Est-ce que c'est un musicien un peu de transition entre des périodes et qui fait évoluer les périodes, ou est-ce que c'est un musicien qui s'adapte, voire qui prend le sens du vent, aussi bien musicalement que peut-être même politiquement?
Alors c'est un petit peu tout ça, à la fois, parce qu'il est novateur pour certaines choses. J'ai parlé tout à l'heure de son invention du pianoforte organisé, mais dès son premier livre d'orgue dit de Dijon, qui est manuscrit, il compose un concerto pour orgue. Alors il appelle ça concerto, mais c'est pour orgue solo, hein. C'est pas le concerto comme Händel avec un orchestre. Et ce concerto pour orgue, c'est le premier en France composé sous cette forme-là. Donc là, il est vraiment novateur. Et puis, il sera novateur aussi dans le fait d'être l'un des premiers à utiliser et à introduire sur la scène du concert le piano forte. Donc, il n'est pas suiviste uniquement. Et alors, vous parlez de l'aspect politique. Alors oui, certainement, lui qui a été choyé et adulé par l'aristocratie, il réussit à se ménager des protections au moment de la Révolution française. Il est chargé de l'inventaire des orgues de la ville de Paris, de choisir ceux qui doivent être protégés. Et de la sorte, il n'est pas inquiété, alors qu'il avait beaucoup de liens étroits avec la noblesse.
Le point de vue d'un organiste, Frédéric Mayer, vous êtes titulaire de l'orgue restauré de Saint-Bénigne à Dijon, vous êtes aussi professeur d'orgue, bien sûr, depuis nouveau venu, mais depuis quelque temps maintenant. Quelle est la place pour un organiste de Balbâtre au milieu des Daquin, Grigny, Couperin, et je m'arrête là?
On va dire que la place de Balbâtre dans l'univers musical, on va dire, du classique français, c'est principalement les Noëls. Toutes les suites de Noël que Balbâtre a composées, avec beaucoup de variations, qui sont demeurées très populaires et qui sont très fréquemment jouées par les organistes. En ce qui concerne le reste de son répertoire, il est quand même assez dense, puisqu'il y a des suites françaises, il y a des pièces de différents genres. Il y a même eu une quinzaine de concertos pour orgue, dont malheureusement, que je crois que 13 ou 14 ont disparu. On ne les retrouve pas, il n'en reste que un, qui était issu du manuscrit de Versailles. En fait, voilà, l'œuvre de Balbâtre, elle est principalement, on va dire, centrée sur l'exécution des Noëls.
Ce samedi à 13h30, vous allez proposer une masterclass à la tribune de Saint-Bénigne. Alors, y a-t-il une manière particulière de jouer Claude Balbâtre ?
Il faut jouer Claude Balbâtre, on va dire, comme tous les musiciens de son temps, en fait, en approfondissant au maximum l'art et la manière de toucher l'instrument classique français tel que Balbâtre pouvait l'avoir sous les doigts. Il faut savoir que ces compositeurs-là étaient quotidiennement confrontés à trois types d'instruments, hein, l'orgue d'une part, le clavecin de l'autre, le pianoforte ou le clavicorde. Donc il y a quand même toute une réflexion à faire sur l'art de toucher ces pièces. Et puis également, comme je disais, trois instruments, ça veut dire il y a de la transversalité également dans la technique de jeu. Donc là, l'approche d'un instrument de base classique française comme est celui de Saint-Bénigne, parce qu'il date de 1745, hein. Il faut savoir que Balbâtre est né en 1724, donc il était totalement contemporain à 20 ans de cet instrument tout neuf. Donc voilà, l'orgue de Saint-Bénigne, il l'a connu, il l'a entendu sonner.
Saint-Bénigne est un gros instrument tout de même, Frédéric Mayer. Est-il bien adapté à l'orgue français du XVIIIe siècle ?
C'est un gros instrument parce qu'il a été transformé et augmenté à partir de la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a encore la base, en tout cas, on va dire 60 à 70% de la tuyauterie originelle, hein, de Carl Joseph Ripp, est encore dans l'orgue. Et si on utilise l'orgue, si on le registre, on va dire, intelligemment, à prendre avec des guillemets, hein, cette remarque-là, mais si on prend les mélanges classiques français, ils fonctionnent tous parfaitement. On va dire que le caractère un petit peu géant de l'orgue de Saint-Bénigne, c'est qu'il est basé sur une montre de 32 pièces, qui ça, par contre, est assez exceptionnel, puisque ça donne à l'orgue une gravité presque unique en France. Je crois qu'on a la même chose sur le grand Dombedos de Sainte-Croix de Bordeaux, mais vous voyez, ça reste quand même anecdotique en France.
Pour pour en revenir à la masterclass, Frédéric Meyer, est-ce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire lorsqu'on joue Claude Balbâtre ?
C'est pas une question à laquelle il est si facile de répondre. Je pense que l'on doit, autant que faire se peut, se rapprocher du style donc de jeu de cette époque-là. Respecter également la plupart des indications qui sont en fait souvent incluses dans le titre, donc les registrations en fait. Hein. Quand un compositeur vous écrit un concert de flûte et de voix humaine, bah, il est évident que vous allez faire dialoguer la flûte et la voix humaine. Vous avez un récit de hautbois, un récit de cornet, cromandantin, et donc l'art de la registration et les mélanges pour l'orgue font en fait intégralement partie des œuvres en elles-mêmes, vous voyez.
Et vous terminerez ce week-end avec un concert. Alors, je vous imagine même tout de même donner un programme exclusivement consacré à Noël.
Ce ne sera pas un programme exclusivement consacré à des œuvres de Noël, mais il en comprendra quelques-unes. Mais vous savez, Balbâtre a quand même écrit des suites également, des suites pour le Magnificat, tout simplement, avec des pièces de caractère. On va entendre un panel de suites classiques françaises. On va entendre des variations sur de Noël, oui, tout à fait. On va entendre la marche des Marseillois, ou la marche des Marseillais, en tout cas les variations sur l'air de la Marseillaise qu'il a composé, mais également ce sera mélangé avec des œuvres d'autres compositeurs, comme par exemple Michel Corrette, pour ne citer que lui, voilà.
Patrick Hellman, Claude Balbâtre, ça n'est pas donc que de la musique d'orgue. Vous proposez un concert, alors vous allez retrouver votre lieu de prédilection, l'ancienne chapelle du couvent des Cordeliers, rue Turgot à Dijon, et vous allez nous proposer de la musique en solo, mais aussi en quatuor.
Je pense que c'est quand même le répertoire pour orgue de Balbâtre qui est le plus connu, qui est le plus communément joué. En revanche, sa musique de chambre est vraiment moins connue, c'est l'occasion pour nous de la donner. Nous jouerons deux quatuors, les deux quatuors sur quatre. Alors, quand on dit quatuor, évidemment, c'est pas le quatuor de Haydn ou de Beethoven. Hein.
C'est pas quatuor à cordes.
C'est un quatuor avec deux dessus, un violoncelle, ou bon, en tout cas ce qu'on appelle une basse d'archet. Et là, ce sera une viole de gambe. Et le clavecin qui fait une partie de clavecin obligée, comme j'ai dit tout à l'heure, absolument écrite. Donc moi, je jouerai toutes les notes qui ont été écrites par Balbâtre. Ce sont des pièces de clavecin accompagnées par un certain nombre d'instruments. Et dans la première édition, il est aussi spécifié qu'on peut ajouter deux cors, des cors. Donc en plus des deux violons, on peut rajouter des cors. À mon avis, il avait dû l'écrire pour une bande de copains, il devait y avoir des...
Des musiciens employés.
Oui, des musiciens employés, non mais c'est vrai. Ou alors c'est aussi pour le succès de l'édition. Hein, il fallait mettre le plus possible d'instruments pour qu'on vende la partition au plus grand nombre aussi. Donc là, deux violons, le clavecin, la basse d'archet et deux cors ad libitum. Ce ne sera pas le cas pour le concert du 9 novembre. Ça sonnera très très bien avec deux magnifiques violonistes et Noémie Lenouf à la viole de gambe, et moi au clavecin.
Alors, il faut peut-être donner le nom des deux violonistes, parce qu'on peut s'étonner de trouver avec vous Alice Julien Laferrière, par exemple.
C'est un grand plaisir que j'ai de recevoir Alice Julien Laferrière pour ce programme, puisque vous savez, elle n'habite pas loin de Dijon, nous sommes voisins.
À la Turbine en Saône-et-Loire.
Mais oui, la Turbine, l'excellent travail qu'elle mène. Et Minori de Gouchy, merveilleuse violoniste qui développe une très belle carrière et que j'ai la chance de voir assez régulièrement dans ma saison.
Patrick Kallmann, en ouvrant notre conversation, je faisais allusion à Rameau, qui est dans le titre générique que vous avez donné à ce week-end de musique. Jean-Philippe Rameau, à Dijon, là, vraiment, c'est pas la surprise.
C'est pas une surprise, mais je trouve qu'on pourrait faire beaucoup plus pour Rameau à Dijon. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire quelque chose comme Salzbourg fait pour Mozart ou la Côte-Saint-André pour Berlioz. On en est encore assez loin à Dijon.
Vous avez dit Mozart, et on entendra Mozart, puisque vous l'avez rappelé au début de notre conversation. Mozart est venu à Dijon en 1666. C'était à la mairie de Dijon, qui est actuellement occupée par les archives départementales de la Côte d'Or. Le jeune Mozart a joué là et vous allez vous en souvenir.
C'est de la musique extraordinaire. Nous jouerons une sonate avec clavecin obligé. Donc, et encore une fois, tout clavecin est écrit. Et je jouerai ça avec Minori de Gouchy, qui a une grande habitude de cette musique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Pierre, elle était venue il y a 2 ans avec le quatuor à cordes Mycelium. Nous avions joué le concerto 21 de Mozart et l'empereur de Haydn. Donc elle est aussi spécialiste de musique classique, en plus d'être spécialiste de musique purement baroque, 17e et 18e siècle.
Et puis donc ce week-end se termine dimanche, ça sera à 16h à la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, avec Frédéric Mayer, le maître du grand orgue depuis quelques années, puis particulièrement depuis que cet instrument est refait. On a eu l'occasion d'en parler avec lui, on met tous ses rendez-vous sur le site de BFC Classique.